Livre 10, une erreur judiciaire. Le lendemain, à 10 heures du matin, la séance du tribunal s'ouvrit et le jugement de Dmitri Fedorovitch Karamazov commença. Cette affaire a eu un très grand retentissement dans tout le pays. On est venu pour la suivre de Moscou et même de Pétersbourg. Les femmes étaient pour Mitya et souhaitaient son acquittement. La plupart des hommes étaient contre lui. Longtemps avant l'heure, la salle était pleine. On se montrait les pièces à conviction sur une table devant les juges. La robe de chambre ensanglantée de Fiodor Pavlovitch, le pilon, la chemise et la redingote de Mitya, son mouchoir, ses pistolets, l'enveloppe des 3 000 roubles. À la droite des juges se tenaient les 12 jurés, 3 tchinovniks, 2 marchands, 6 moudjiks et un metchanin. On se demandait comment des gens si simples, surtout ces moudjiks, pourraient comprendre une affaire de psychologie si compliquée. Pourtant, leur attitude imposait le respect. Enfin, le président ouvrit la séance et ordonna d'introduire l'accusé. Il se fit un grand silence. Mitya produisit une impression défavorable. Il se présenta en gentleman, habillé de neuf, ganté, un linge éblouissant de blancheur. Il entra, roide, marchant à grands pas, et s'assit avec un calme imperturbable. Aussitôt après, lui parut son défenseur, le célèbre Fietushkovitch. Une rumeur sourde parcourut la salle. C'était un homme long, sec, avec de grandes jambes fluettes, des doigts pâles et effilés, le visage glabre, les cheveux courts. Ses lèvres minces étaient plissées par un sourire sardonique. La physionomie eût été agréable sans les yeux, qui manquaient d'expression et étaient très rapprochés l'un de l'autre. Il y avait de l'oiseau dans cet homme. Il portait le frac et la cravate blanche. On donna lecture de la liste des témoins. La nouvelle de la mort de Smerdiakov fit sensation. « Ah, chien mort de chien !» s'écria Mitya. Son défenseur se jeta aussitôt vers lui pour le faire taire. Le président le menaça de prendre des mesures sévères à sa première incartade. Ce petit épisode n'était pas de nature à lui conseiller, s'y lier, la bienveillance du public. On lut l'acte d'accusation, puis on procéda à l'interrogatoire de l'accusé. Accusé, vous reconnaissez-vous coupable ? Mitya se leva. Je me reconnais coupable d'ivresse, de débauche et de paresse. Je voulais m'amender à l'heure même où la destinée m'a frappé. Quant à la mort du vieillard, qui fut mon ennemi et mon père, je n'en suis point coupable. Je ne l'ai pas volé non plus, non, jamais. Je n'aurais pu voler. Dmitri Karamazov est un vaurien, mais un voleur, non. Il prononça ces paroles avec emportement et s'assit tout frémissant. Le président lui fit observer qu'il devait répondre le plus brièvement possible. On procéda à la formalité du serment des témoins. Les deux frères de Mitya en étaient naturellement exemptés. Après les exhortations du pope et de son président à dire toute la vérité et seulement la vérité, on fit sortir les témoins pour les rappeler ensuite l'un après l'autre. On interrogea d'abord les témoins à charge et chacun remarqua toute la gravité de l'accusation. la culpabilité ressortait si évidemment de leur déposition qu'on se rendit aussitôt compte que les débats n'auraient lieu que pour la forme et que l'accusé était réellement coupable. On commença par interroger Grigori. Quand il eut répondu au procureur, ce fut au défenseur à l'interroger. Il se mit aussitôt à le questionner au sujet de ce paquet où étaient, disait-on, cachés 3 000 roubles destinés à une certaine personne. « L'avez-vous vu vous-même, vous en qui votre marine avait depuis si longtemps confiance ?» Grigori répondit qu'il ne l'avait jamais vu et qu'il n'en avait même entendu jamais parler, mais sauf depuis l'événement. Le défenseur fit avec une persistance qui fut remarquée cette même question à tous les témoins. Tous répondaient qu'ils n'avaient pas vu le paquet, mais qu'ils en avaient entendu parler. Pourrais-je vous demander, reprit Fiedukovitch, en quoi consistait ce baume, cette liqueur que vous absorbez en guise de remède ? Grigori le regarda d'un air stupide, puis après un silence murmura « Il y a de la sauge, et rien de plus, du plantain, et peut-être du poivre aussi. Oui, du poivre aussi, et tout cela avec de la petite vodka. Oui, avec de la vodka pure. » Un léger rire passa dans la salle. « C'est cela, de la vodka pure. Vous vous êtes d'abord frotté le dos avec la mixture, puis vous avez, après une pieuse prière dont votre épouse garde la seconde formule, bu le reste de la bouteille, n'est-ce pas ?»« Oui. » »« Y en avait-il beaucoup, un petit verre ou deux ?»« Un grand verre. » « Ah, un grand verre, un verre et demi peut-être. » Grigori garda le silence, il semblait se méfier. « Un verre et demi de vodka pure, ce n'est pas mal, qu'en pensez-vous ? On peut voir ouvertes les portes du paradis avec un verre et demi de vodka. » Grigori se taisait toujours. Un nouveau rire parcourut l'assistance. Le président fit un mouvement. « Ne pourriez-vous me dire, reprit Fiedukovitch, si vous étiez en train de reposer quand vous avez vu la porte du jardin ouverte ?»« Non, j'étais sur mes jambes. »« Cela ne me prouve pas que même sur vos jambes, vous ne fussiez pas en train de reposer. » Nouveau rire. Auriez-vous pu à ce moment-là, si quelqu'un vous avait demandé, dire dans quelle année nous sommes ? Au fait, en quelle année sommes-nous depuis, bien entendu, la naissance de Jésus-Christ ? Le savez-vous ? Grigori était intimidé et regardait fixement son bourreau. Cela peut paraître étrange, mais il ne savait pas en quelle année nous sommes. Au moins, « pourriez-vous me dire combien vous avez de doigts aux mains ?»« Je suis un humble, » dit tout à coup Grigori d'un ton net. « Et s'il plaît aux autorités de se moquer de moi, je dois le supporter. » Fiedukovitch demeura un peu concerté. Le président l'invita à faire des questions plus étroitement liées à l'affaire. Le but du défenseur, dont le système général consistait à discréditer la valeur des témoins à charge, n'en était pas moins atteint. Il procéda tout aussi adroitement avec le témoin Rakitin. Il est à noter qu'en 3 jours, Fiedukovitch s'était mis au fait du caractère de chacun des témoins. Rakitin, qui avait fait une étude du milieu où étaient nés des types tels que les Karamazov, fut obligé de répondre, comme les autres, à la question « Avez-vous vu le paquet de 3 000 roubles ?» qu'il n'avait jamais vu personnellement. « Permettez-moi de vous demander, » continua le défenseur avec un sourire aimable, Si vous n'avez pas beaucoup connu, madame Svitlova, enfin Grushenska. Ben, je ne suis pas responsable de toutes les personnes que je connais. Je suis un jeune homme, dit Rakitine en rougissant. Oh, je comprends à merveille, dit le défenseur, en feignant lui-même de regretter sa question indiscrète. Vous avez fort bien pu vous intéresser, comme tout le monde, à une jeune et belle femme qui recevait chez elle la fleur de la jeunesse de cette ville, mais je voulais simplement vous demander un renseignement. Vous savez qu'il y a 2 mois, Madame Svitlova désirait vivement faire la connaissance du plus jeune des Karamazov, Alexei Fedorovitch. Elle vous a promis 25 roubles si vous le lui ameniez dans le costume de novice qu'il portait alors. Vous avez conduit Alexei Fedorovitch chez Madame Svitlova et vous avez reçu 25 roubles. Je voulais savoir si le fait est vrai. Ben, c'était une plaisanterie. Je vois pas en quoi cela vous intéresse. J'ai pris cet argent par plaisanterie pour le rendre après. Par conséquent, vous l'avez pris, mais vous ne l'avez pas encore rendu. Ou bien, l'auriez-vous déjà rendu ? Bagatelle, murmura Ratik. Certes, je le rendrai. Le président intervint. Le défenseur déclara qu'il n'avait plus rien à demander à M. Rakitine. La réputation du penseur Rakitine était quelque peu endommagée. Mitya, mis hors de lui par le ton sur lequel Rakitine avait parlé de Grushenka, cria de sa place « Bernard !» Et quand, après les dépositions de Rakitine, le président demanda à Mitya s'il n'avait rien à dire, Mitya s'écria « Chez moi, dans ma cellule de prisonnier, il venait me chiper de l'argent, ce misérable, cet athée !» On imposa silence à Mitya, mais Rakitine était achevé. Vint le tour de Trifon Borisitch. Il affirmait avoir vu lui-même jusqu'au dernier kopeck, les 3000 roubles entre les mains de Mitya. « Avez-vous remis à l'accusé, demanda Fetioukovitch, les 100 roubles qu'il a perdus chez vous lors de son premier voyage à Mokroïe ?» Trifon Borisitch nia d'abord avoir trouvé les 100 roubles. Puis, comme il fut prouvé par les témoignages des bougies que le fait était réel, l'hôtelier affirma les avoir rendus à Mitya. Les choses se passèrent d'une sorte analogue avec les Polonais. Ils entrèrent la tête haute en déclarant qu'ils avaient servi la couronne et que Mitya leur avait proposé d'acheter leur honneur pour 3000 roubles. Mais Fietioukovitch rappela sur la sellette Trifon Borisitch et le contraignit, malgré ses hésitations, a déclaré qu'il avait pris les Panov en flagrant délit de tricherie, ce qui fut confirmé par Kalganov. Alors Fetioukovitch parvint à déconsidérer chacun des témoins les plus importants aux yeux des juges et du public. Les amateurs et les jurisconsultes l'admirèrent, mais ils se demandaient à quoi servirait tant d'adresse puisque la culpabilité de l'accusé n'en restait pas moins évidente. L'assurance du grand mage ne laissait pourtant pas d'étonner, et l'on attendait. Ce n'était pas pour rien qu'un pareil homme était venu de Saint-Pétersbourg. On passa aux témoins à décharge. Tout d'abord, on interrogea Alyosha. Il était visiblement sympathique aux ennemis, aussi bien qu'aux amis de l'accusé. Il décrivit le caractère de son frère comme un homme emporté par ses passions, mais noble, orgueilleux, généreux, capable de se sacrifier lui-même. Il accorda pourtant que sa passion pour Grushenka l'avait rendu difficile à vivre, mais il nia formellement la culpabilité. Votre frère vous a-t-il dit qu'il avait l'intention de tuer son père ? Demanda le procureur. Vous pouvez ne pas répondre si cela vous plaît. Non, directement, il ne me l'a pas dit. Indirectement, alors. Il m'a parlé un jour de sa haine pour notre père. Il semblait craindre que, poussé à bout, il pût le tuer. L'avez-vous cru ? Je ne peux l'affirmer. J'étais toujours convaincu qu'un bon sentiment le sauverait au moment fatal. C'est ce qui est arrivé en effet, car ce n'est pas lui qui a tué mon père, dit Alyosha d'une voix forte et qui résonna dans toute la salle. Le procureur tressaillit comme un cheval de bataille au son de la trompette. Soyez sûr que je ne mets pas en doute votre sincérité. Je ne la crois pas compromise par votre personnalité, par votre partialité naturelle pour votre malheureux frère, mais je ne vous cache pas que votre opinion est isolée. Elle est contraire à toutes les dispositions que l'instruction a reçues. Je persiste donc à vous demander sur quelles données est fondée votre conviction et de l'innocence de votre frère et de la culpabilité d'une autre personne que vous avez désignée au cours de l'instruction. Pendant l'instruction, je n'ai répondu qu'aux questions qui m'ont été posées, répondit tranquillement Alyosha. Je n'ai pas commencé par accuser Smerdiakov. Pourtant, vous l'avez désigné. Oui, d'après les affirmations de mon frère Dmitri. Je crois fermement à l'innocence de mon frère. Et si ce n'est pas lui qui a tué, alors... C'est Smerdiakov. Mais pourquoi précisément lui ? Et pourquoi êtes-vous si convaincu de l'innocence de votre frère ? Je ne puis pas douter de lui. Je sais qu'il ne peut me mentir. J'ai lu la vérité sur son visage. Seulement sur son visage. Ce sont là toutes vos preuves. Je n'en ai pas d'autres. Et vous n'avez pas d'autres preuves de la culpabilité de Smerdiakov ? Que les paroles de votre frère et l'expression de son visage. Non. Le procureur se tut. La déposition d'Alyosha produisit une très mauvaise impression. Fetioukovitch prit la parole. Il demanda à Alyosha à quel moment précis l'accusé lui avait parlé de sa haine pour son père. Alyosha tressaillit comme si un souvenir imprévu lui revenait et raconta la scène sur la route du monastère en insistant sur le geste de Mitya se frappant la poitrine, geste qu'Alyosha n'avait pas compris alors, mais qui ne pouvait avoir trait, il en était convaincu maintenant, qu'à l'amulette où étaient cachés les 1500 roubles. « Précisément !» cria Mitya de sa place. « C'est cela, Alyosha, c'est cela, c'est sur elle que je frappais !» Fetioukovitch le supplia de se taire et revint aussitôt avec insistance à Alyosha. « Mais c'est cela, c'est bien cela !» s'écria Alyosha, très animé. « Mon frère m'a dit à ce moment qu'il pourrait encore se laver de la moitié de sa honte, mais qu'il était si peu maître de lui qu'il n'en ferait rien. Et vous vous rappelez nettement qu'il se frappait à cet endroit de la poitrine ? Demandait avidement Fetioukovitch. Oui, très nettement. Je me demandais même alors, mais pourquoi se frappe-t-il si haut ? Le cœur est plus bas. C'est à cause de ce détail que ce souvenir m'est resté. Le procureur se mêla à la lutte pour demander si l'accusé, en se frappant la poitrine avec le poing, avait semblé désigner quelque chose. Peut-être se frappait-il au hasard. « Mais il ne se frappait pas avec le poing, » répondit Alyosha. « Il désignait avec son doigt, ici, très haut, Comment ai-je pu l'oublier jusqu'ici ? Le président demanda à Mitia s'il voulait ajouter quelque chose à cette déposition. Mitia confirma le récit de son frère. La déposition d'Alyosha était terminée. Elle avait cela de caractéristique qu'elle établissait un fait à la décharge de Mitia, un fait insignifiant en lui-même, il est vrai, mais qui prouvait l'existence des 1500 roubles et par conséquent la véracité de Mitia. Alyosha était tout rouge de joie. « Comment ai-je pu l'oublier? Comment ne me le suis-je pas rappelé que maintenant ?» disait-il en retournant à la place qui lui avait été assignée. On passa à l'interrogatoire de Katerina Ivanovna. À son entrée dans la salle, il se fit un mouvement. Les dames saisirent leurs jumelles, les hommes chuchotaient, quelques-uns se levèrent pour mieux voir. Mitia devint pâle comme un mouchoir. Toute vêtue de noir, elle s'approcha modestement, presque timidement, du tribunal. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais le feu sombre de ses yeux révélait la résolution. Elle était merveilleusement belle. Elle parla d'une voix douce mais distincte. Le président l'interrogeait avec discrétion, comme s'il eût craint de toucher certaines cordes. Dès les premiers mots, elle déclara qu'elle avait été fiancée avec l'accusé jusqu'au moment où il l'avait abandonnée lui-même, et quand on l'interrogea au sujet des 3000 roubles qu'elle avait confiés à Mitia pour qu'il les envoyât à Moscou, elle répondit avec fermeté « Mon intention réelle n'était pas qu'il fît immédiatement parvenir cette somme à ma famille. Je savais qu'il avait un très pressant besoin d'argent à ce moment. Alors je lui ai donné ces 3000 roubles pour qu'il les envoyât à Moscou quand il voudrait, dans le délai d'un mois. Il avait tort de s'affliger tant à propos de cette dette. J'étais sûr qu'il me rendrait l'argent aussitôt qu'il l'aurait reçu de son père. J'avais confiance en son honneur. Son incontestable honneur relativement aux questions d'argent. Il devait recevoir de son père 3000 roubles. Je savais qu'il était en mauvaise relation avec son père. Je savais que son père l'avait lésé dans ses intérêts. Je ne me rappelle pourtant pas qu'il ait jamais devant moi proféré des menaces contre son père. S'il était venu chez moi, je l'aurais aussitôt rassuré quant à ses malheureux 3000 roubles. Qui l'ont tant fait souffrir, mais il n'est pas revenu. Et moi-même, j'étais dans une certaine situation qui ne me permettait pas de l'inviter à venir. D'ailleurs, je n'avais nullement le droit de me montrer exigeante avec lui quant à cette dette, dit-elle tout à coup avec l'accent d'une résolution profonde. J'ai moi-même reçu de lui un jour une somme plus considérable que j'ai accepté, bien qu'il ne me fût pas possible de prévoir alors un temps où je pourrais la lui rendre. Et il y avait quelque chose de provocant dans son accent. « Non, reprit-elle, jamais, je n'oublierai cet instant. » Et elle raconta tout. Tout cet épisode tel que Mitia l'avait conté à Alyosha. Elle omit toutefois de dire que Mitia avait exigé qu'on envoyât Katerina Ivanovna elle-même chez lui pour chercher l'argent. Tous les membres du tribunal écoutaient avec recueillement. Le procureur ne se permit pas une question sur ce thème. Fetioukovitch fit à Katerina un profond salut. Oh, il triomphait presque. Se pouvait-il que l'homme si noble qui avait donné dans un élan de générosité ses derniers 5000 roubles, fut le même qui avait tué son père pour lui dérober 3000 roubles. La sympathie commençait à pencher en faveur de Mitia. Mais lui qui, plusieurs fois, pendant la déposition de Katia, s'était levé et avait couvert son visage de ses mains, s'écria, quand elle eut fini, « Katia, pourquoi achèves-tu de me perdre ?» Il fondit en larmes, puis il ajouta, « Maintenant, je suis condamné. » Katerina Ivanovna pâlit, frissonna et s'assit à la place qu'on lui désignait, la tête baissée, tremblant comme dans un accès de fièvre. Ce fut le tour de Grushenka. Elle était aussi habillée de noir, les épaules entourées d'un superbe châle. Elle s'approcha lentement du tribunal, en regardant fixement le président. Elle dit n'avoir pas vu le paquet, mais elle en avait entendu parler par le brigand. « Mais tout cela sottise, je ne serais pas allé chez Fiodor Pavlovitch pour rien au monde. »« Qui traitez-vous de brigand ?» demanda le procureur. « Et le laquais Smerdiakov, qui a tué son mari et qui s'est pendu hier. » On lui demanda sur quoi elle fondait une accusation si catégorique. « C'est Dmitri Fedorovitch qui me l'a dit, » répondit-elle. « Et vous pouvez l'en croire. C'est cette dame qui l'a perdue. C'est elle qui a fait tout le mal, » ajouta-t-elle avec un tremblement haineux. « De qui parlez-vous ? » demanda le procureur. « Mais de cette Barishnia, cette Katerina Ivanovna, qui m'a appelé chez elle et voulait me séduire. » Le président l'interrompit en la priant de contenir ses ressentiments. « Mais, dit le procureur, quand on a arrêté l'accusé à Mokroy, vous avez crié « C'est moi qui suis coupable, je suivrai au bagne. Vous le croyez donc parricide ?»« Je ne me rappelle pas ce que j'ai cru à ce moment, mais dès qu'il m'a déclaré qu'il n'était pas coupable, je n'ai point douté de sa parole. » On introduisit Ivan. Il avait été appelé avant Alyosha, mais l'huissier informa le président qu'une indisposition subite empêchait le témoin de se présenter devant le tribunal et qu'il viendrait aussitôt qu'il le pourrait. Son entrée fut à peine remarquée. La curiosité avait été presque satisfaite par l'interrogatoire des deux rivales. Il s'approcha du tribunal avec une lenteur étrange, sans regarder personne, le front penché, comme perdu en ses pensées. Il était vêtu correctement, mais son visage portait les traces de sa maladie. Il y avait la pâleur du sépulcre sur ce visage. C'était le visage d'un homme qui se meurt. Les yeux se voilaient. Il leva la tête et regarda circulairement la salle. Alyosha se dressa et laissa échapper un « Ah !» mais personne n'y prit garde. Le président rappela à Ivan qu'il était témoin non assermenté, qu'il pouvait taire ou dire ce que bon lui semble. Ivan Fedorovitch écoutait, les yeux vagues. Tout à coup, ses traits se détendirent dans un sourire, et aussitôt que le président, qui le regardait avec étonnement, eut fini, Ivan éclata de rire. « Puis quoi encore ? » demanda-t-il à haute voix. Il se fit un silence. Le président s'agita. « Peut-être êtes-vous encore indisposé ?» dit-il en cherchant du regard l'huissier. « Ne vous inquiétez pas, votre excellence, je me sens suffisamment bien. Et puis, vous racontez quelque chose de très curieux, » dit Dan d'un ton tranquille et décent. « Vous avez une communication particulière à nous faire ?» demanda le président avec une certaine méfiance. Ivan Fiodorovitch baissa la tête et garda le silence durant quelques secondes. Puis, se redressant, répondit Non, non, je n'ai rien à dire de particulier. On l'interrogea. Il parlait à peine, laconiquement, avec une sorte de dégoût, mais sans incohérence. Il dit ne rien savoir sur les comptes pécuniaires qui faisaient le fonds des différends de Fiodor Pavlovitch et de Dmitri. Toujours la même chose, interrompit-il tout d'un coup d'un air fatigué. Je n'ai rien à dire au juge. Je vois que vous êtes indisposé, reprit le président. Il consulta le procureur et le défenseur pour leur demander s'ils avaient des questions à faire aux témoins. Tout à coup, Ivan dit de sa voix brisée: Permettez-moi de me retirer, Votre Excellence, je ne suis pas bien. Là-dessus, sans attendre l'autorisation, il se retourna et se dirigea vers la sortie. Mais après avoir fait quelques pas, il s'arrêta, parut réfléchir, sourit et revint à sa place. Voilà, dit-il en tirant de sa poche une liasse de billets de banque. Voilà l'argent, c'est le même qui était dans cette enveloppe. Et il la désignait parmi les pièces à conviction. C'est celui pour lequel on a tué mon père. Où faut-il le déposer, monsieur l'huissier? Veuillez le remettre à son Excellence. L'huissier prit la liasse et la donna au président. Mais comment cet argent peut-il être entre vos mains, si c'est bien le même? Demanda le président étonné. Ben, je l'ai reçu de Smerdiakov, de l'assassin, hier. J'étais chez lui avant qu'il se pendît. C'est lui qui a tué mon père, c'est pas Dmitri. C'est lui qui a tué, c'est moi qui l'y ai poussé, qui ne désire pas la mort de son père. Mais avez-vous votre raison? Oh, parfaitement. J'ai toute ma présence d'esprit, de cet esprit vil comme le vôtre, comme celui de tous ces museaux. Ils ont tué leur père, ils feignent la terreur, dit-il avec dégoût et en grinçant des dents. Les menteurs, tous désirent la mort de leur père. Un reptile dévore un autre reptile. S'il n'y avait pas de parricide, il n'y aurait pas de spectacle. Le spectacle, panem et circenses, hé, je suis aussi joli, moi. Avez-vous de l'eau? Donnez-moi de l'eau, au nom du Christ, dit-il en étreignant tout à coup sa tête. L'huissier s'approcha de lui aussitôt. Alyosha se leva et cria: Il est malade, ne le croyez pas, il a la fièvre chaude. Katerina Ivanovna se leva à son tour, blême de terreur, et considérant Ivan Fiodorovitch. Mitya le regardait avec un sourire qui le défigurait. Tranquillisez-vous, je ne suis pas un fou, reprit Ivan. Je ne suis qu'un assassin. On ne peut exiger d'un assassin l'éloquence, dit-il en riant. Le procureur, visiblement agité, se pencha vers le président. Les juges chuchotaient entre eux. Fietioukovitch dressa l'oreille. La salle était anxieuse. Témoin, votre langage est incompréhensible et vous tenez des discours qui ne sont pas de mise ici. Tâchez de vous contenir et parlez si vous avez quelque chose à nous dire. Par quoi pouvez-vous confirmer votre aveu si ce n'est pas un effet du délire? Mais je n'ai pas de témoin. Ce chien de Smerdiakov ne reviendra pas de l'autre monde pour faire sa déposition dans une enveloppe. Vous voudriez toujours des enveloppes. Vous en avez assez d'une. Je n'ai pas de témoin, sauf un seul, peut-être, dit-il d'un air réfléchi. Qui donc ? Bon, il a une grande queue, votre Excellence. Cela n'est point prévu par la procédure. Le diable n'existe point. Ne faites pas attention. C'est un tout petit diable, ajouta-t-il sur un ton de confidence, en cessant de rire. Il doit être quelque part ici, sous la table des pièces à conviction. Où serait-il, sinon là ? Écoutez-moi, je lui ai dit, je veux pas me taire. Et il me répond de cataclysme géologique. Sottisme était le fauve en liberté. Il a chanté son hymne. Il le pouvait, lui, il a le cœur léger. Moi, pour 2 secondes de joie, je donnerais un quatrillion de quatrillions. Vous ne me connaissez pas. Pouh, tout est bête parmi vous. Eh bien, saisissez-moi donc à sa place. Je suis pas venu ici pour rien. Pourquoi tout ce qui existe est-il si bête ? Il se tut et regarda la salle très absorbée. Tout le monde était ému. Alyosha courait vers Ivan, mais l'huissier l'avait déjà saisi par le bras. « Qu'est-ce encore ?» s'écria Ivan Fiodorovitch, et regardant fixement le visage de l'huissier. Mais tout à coup, il le prit par les épaules et le renversa par terre. Les soldats de service au tribunal accoururent et s'emparèrent d'Ivan. Il se mit à hurler de toutes ses forces, et on l'emporta sans parvenir à le faire taire. Une grande agitation régnait dans la salle, et le public n'était pas encore calmé quand, à cette scène, une autre succéda. Katerina Ivanovna avait une crise de nerfs. Elle pleurait et sanglotait avec violence, sans vouloir s'en aller. Elle suppliait qu'on lui permît de rester. Tout à coup, elle cria au président. J'ai encore quelque chose à dire, tout de suite. Voici un papier, une lettre, lisez vite. C'est la lettre du fauve, celui-là, criait-elle en désignant Mitya. C'est lui qui a tué son père. Il m'a écrit comment il le tuerait. Oh, l'autre est malade, il a la fièvre chaude depuis 3 jours. L'huissier prit le papier et le tendit au président. Katerina Ivanovna retomba sur sa chaise et, cachant son visage entre ses mains, elle sanglota sans bruit, étouffant ses moindres gémissements de crainte qu'on la fît sortir. Cette lettre était celle que Mitya lui avait écrite et que Ivan avait considéré comme une preuve matérielle. Elle parut telle au juge. Sans cette lettre, Mitya n'eût peut-être pas été condamné. Le président demanda à Katerina Ivanovna si elle était remise. « Je suis prête, répondit-elle vivement, je suis prête. Je suis tout à fait en état de vous répondre. » Sa plus grande crainte était qu'on ne l'écoutât pas. On la pria d'expliquer en détail dans quelles circonstances cette lettre avait été écrite. Je l'ai reçue la veille de l'assassinat. Il me haïssait au moment où il me l'écrivait. Il m'abandonnait pour cette créature. Il me haïssait aussi parce qu'il me devait ses 3 000 roubles. Voici la vérité là-dessus, je vous conjure de m'écouter. 3 semaines avant de tuer son père, il était venu chez moi un matin. Je savais qu'il avait besoin d'argent, et dans quel but. C'était précisément pour séduire cette femme et l'emmener avec lui. Oh, je savais déjà qu'il me trahissait, et pourtant je lui donnais cet argent, sous prétexte de l'envoyer à Moscou par son entremise, et en le lui donnant, je l'ai regardé en face, et je lui ai dit qu'il pourrait l'envoyer quand bon lui semblerait, fût-ce dans un mois. Pouvait-il ne pas comprendre que c'était lui dire « Il te faut de l'argent pour me trahir. Eh bien, voici, c'est moi qui te le donne. Pense si tu en as le cœur. » Je voulais lui faire honte, mais il l'a pris, cet argent. Il l'a emporté et l'a dépensé en une nuit. Il avait pourtant compris que je savais tout, je vous assure. Il avait compris que c'était une épreuve. « C'est vrai, Katia, s'écria Mitya, je t'avais compris si j'ai pourtant pris ton argent. Mépriser tout ça misérable, je l'ai mérité. Accusez encore un mot et je vous fais sortir de la salle, » dit sévèrement le président. Alors, cet argent était pour lui dans la suite une cause de torture, reprit Katia avec précipitation. Il voulait me le rendre, mais il lui en fallait pour sa maîtresse. C'est pourquoi il a tué son père, mais il ne m'a rien rendu. Il a dépensé avec elle l'argent volé dans le village où on l'a arrêté. Un jour avant l'assassinat, il m'a écrit cette lettre, étant ivre. J'avais deviné aussitôt qu'il l'avait écrite en état d'ivresse. Il pensait que je ne la montrerais à personne, même s'il accomplissait le crime. Autrement, il ne me l'aurait pas écrite. Mais lisez, lisez attentivement, je vous prie. Vous verrez qu'il décrit tout à l'avance. Comment il tuera son père, où est caché l'argent. Remarquez surtout cette phrase. « Je tuerai dès qu'Ivan sera parti. » Le président demanda à Mitya s'il reconnaissait cette lettre. « Oui, oui, je l'aurais pas écrite si je n'avais pas été ivre. Nous nous haïssons pour beaucoup de causes, Katia et moi. Mais je te jure, Katia, qu'à travers ma haine, je t'aimais. Toi, tu ne m'aimais pas. » Il retomba sur son banc en se tordant les mains. Le procureur et le défenseur se mirent à la fois à demander à Katia pourquoi elle avait d'abord caché ce document et déposé dans un autre esprit. Mais j'ai menti, oui, tout à l'heure, contre mon honneur et ma conscience. Mais je voulais le sauver, précisément parce qu'il me haïssait et me méprisait. Oh oui, il me méprisait. Il m'a toujours méprisé. Il m'a méprisé dès l'instant où je l'ai salué jusqu'à terre pour le remercier de son argent. Oh, je l'ai senti aussitôt, mais je fus longtemps sans pouvoir le croire. Que de fois j'ai lu dans ses yeux « Tu n'en es pas moins venu toi-même chercher l'argent. » Oh, il n'avait pas compris pourquoi j'étais venu. Il ne peut rien comprendre de noble, de pur. Il juge tous les hommes selon lui-même. Il ne voulait m'épouser que pour mon héritage. Pour cela seulement, je m'en suis toujours douté. C'est un fauve. Il savait que toute ma vie, je tremblerais de honte devant lui, qu'il aurait toujours le dessus avec moi. Voilà pourquoi il voulait m'épouser. J'ai essayé de le vaincre par un amour infini. Je voulais même supporter sa trahison. Il n'a rien compris, rien, rien. Mais peut-il rien comprendre? C'est un misérable. Je n'ai reçu cette lettre que le lendemain soir. Le matin encore, j'étais résolu à lui pardonner tout, même sa trahison. Le président et le procureur s'efforçaient de la calmer. Ils semblaient avoir honte même de profiter de son exaltation pour recevoir de tels aveux. Mais elle continua et décrivit nettement comment l'esprit d'Ivan Fiodorovitch avait commencé à se troubler durant ces deux derniers mois, perdu par cette idée fixe de sauver le fauve, l'assassin, son frère. « Qu'il a souffert !» s'exclamait-elle. Il voulait atténuer la faute. Il avait résolu d'avouer que lui-même n'aimait pas son père et avait peut-être désiré sa mort. Oh, c'est une conscience merveilleuse, il en meurt. Il venait chez moi tous les jours, comme chez son unique ami. Car j'ai l'honneur d'être son unique ami, s'écria-t-elle avec un éclair dans les yeux. Il est allé chez Smerdiakov deux fois. Une fois, il m'a dit, « Si ce n'est pas mon frère qui a tué, si c'est Smerdiakov, je suis peut-être aussi coupable que lui, car Smerdiakov savait que je n'aimais mon père et pensait peut-être que je désirais sa mort. » C'est alors que je lui ai montré cette lettre, et il a été convaincu de la culpabilité de son frère. Il en était consterné. Il ne pouvait supporter la pensée que son propre frère fût un meurtrier. Il y a 8 jours qu'il est malade de cette pensée. Il était comme dans un délire. On l'a entendu parler tout seul dans les rues. Le médecin que j'ai fait venir de Moscou l'a examiné avant-hier et m'a dit qu'un accès de fièvre chaude était imminent. Et tout cela à cause de ce misérable. La mort de Smerdiakov l'a achevé. Tout cela à cause de ce misérable. Elle eut une nouvelle crise de nerfs. On l'emporta. À ce moment, Grushenka se jeta vers Dmitri en criant, et cela si précipitamment qu'on n'eut pas le temps de la retenir. « Mitya !» s'écriait-elle, « elle t'a perdu !»« Vous la connaissez maintenant » ajouta-t-elle avec rage en s'adressant au tribunal. Sur un signe du président, on la saisit et on l'emmena. Elle se débattait et tendait les bras à Mitya. Mitya jeta un cri et voulut s'élancer vers elle. On eut de la peine à le maîtriser. Le médecin de Moscou, que le président avait envoyé chercher pour soigner Ivan, entra dans la salle et déclara que le malade avait un accès de folie furieuse. La lettre de Katerina Ivanovna fut ajoutée aux pièces à conviction. Le président déclara la séance suspendue.